VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 30 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
En Somalie, 4 terroristes Shebab tués dans des frappes américaines au lendemain d'un attentat qui a fait au moins 79 morts à Mogadiscio.
En Guinée-Bissau, deuxième tour de la présidentielle hier, un candidat crie déjà à la fraude.
Au Mali, l'ex-président Amadou Toumani Touré, disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays.
Frappes américaines en Irak et en Syrie contre une milice pro-iranienne après la mort vendredi d'un sous-traitant américain dans une attaque à la roquette près de Kirkuk.
Ici aux États-Unis, inculpation d'un suspect pour tentative d'homicide après la dernière attaque antisémite près de New York.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Somalie, les États-Unis ont tué hier 4 terroristes dans des frappes contre les miliciens islamistes Shebab. C'est ce qu'a annoncé l'armée américaine au lendemain d'un attentat qui a fait au moins 79 morts et des dizaines de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio, la capitale. Ces frappes aériennes de précision visaient des miliciens Shebab, responsables d'actes terroristes contre des citoyens somaliens innocents en coordination avec Al-Qaïda, a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM.
En Guinée-Bissau, 700 000 électeurs se sont rendus aux urnes hier dans le calme pour élire leur président lors du second tour de la présidentielle. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés. Jean-Roger Bion fait le point.
La porte-parole de la Commission nationale électorale, Félix Bertha Vajmoura, a annoncé dans la soirée de dimanche que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. Elle a exhorté les candidats et les organes de communication nationaux et étrangers à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a ajouté Madame Vajmoura. Le candidat du parti d'opposition Madame Oumaro Sissoko Ambalo avait relayé à la mi-journée ses allégations de fraude visant le président de la CNE. Pour cet ancien premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour.
L'ex-président déchu du Mali, Amadou Toumani Touré, récemment rentré au pays, s'est dit hier disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays. Des détails avec Bagassikoura.
Amadou Toumani Touré, dit ATT, s'exprimait aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits intercommunautaires ont fait des milliers de morts. Amadou Toumani Touré.
Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni la région de Mopti dans cette situation. À quoi est-ce que nous allons servir?
L'ex-président, âgé de 71 ans, a été accueilli par une foule d'habitants de Mopti enthousiaste. ATT, comme on l'appelle, est récemment rentré d'exil du Sénégal, où il vivait depuis sa chute en 2012.
Mais lorsque je reviens dans ce pays, je ne peux que aider, soutenir les autorités de mon pays, les autorités de la région de Mopti.
Général à la retraite et élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incompétence face à la rébellion dans le nord du pays. Il avait quitté le Mali pour le Sénégal voisin et Dakar, où il a mené depuis une existence discrète.
Ce n'est qu'une visite préliminaire. Inch'Allah, je reviendrai.
Un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition au Libéria a réitéré hier son appel à manifester massivement ce lundi à Monrovia malgré l'interdiction des rassemblements jusqu'à la fin janvier décrétée par le gouvernement de ce pays confronté à une grave crise économique. Les Nations Unies et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avaient exhorté vendredi le gouvernement gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts pour éviter que se tienne cette manifestation jugée à risque dans un pays affligé par la pauvreté, la dévaluation de sa monnaie et l'inflation, et cherchant toujours à panser les plaies d'une guerre civile destructrice.
En République démocratique du Congo, au moins 5 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'un obus dans une localité de la province troublée du Nord Kivu. Selon Richard Niembo Wanyembo, administrateur du territoire de Lubero, un riverain a ramassé un engin explosif qu'il a ramené chez lui et l'obus a explosé pendant qu'il le manipulait, tuant au moins 5 personnes et en blessant 3 autres. L'accident a eu lieu à Munoli, une localité située sur le territoire de Lubero, qui, comme l'ensemble de la région du Kivu, et le théâtre de violences qui ont fait des milliers de morts depuis 25 ans. Des dizaines de groupes armés y sont répertoriés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont mené hier des frappes en Irak et en Syrie contre une milice blâmée pour une attaque à la roquette qui a tué un sous-traitant américain vendredi dans une base abritant des soldats américains près de Kirkuk, dans le nord de l'Irak. Un porte-parole du Pentagone a parlé de frappes de précision défensive contre 5 sites des brigades du Hezbollah, une milice irakienne appuyée par l'Iran. Selon lui, elles affaibliront ces frappes les capacités du groupe à lancer de futures attaques contre les Américains et leurs alliés du gouvernement irakien. 19 combattants ont été tués, dit-on, dans les frappes américaines.
Ici aux États-Unis, un suspect a été inculpé hier de 5 chefs d'accusation pour tentative d'homicide après une attaque à l'arme blanche samedi soir près de New York lors d'une fête religieuse juive dans la résidence d'un rabbin. En réaction, le président Donald Trump a appelé à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Le point avec Bagassi Koura.
Le suspect Crafton Thomas, âgé de 37 ans, a comparu devant la justice lors d'une audience préliminaire en fin de matinée. 5 chefs d'accusation pour tentative d'homicide et 1 pour cambriolage ont été retenus contre lui, a indiqué dans un communiqué la police locale, précisant que sa caution avait été fixée à 5 millions de dollars. Crafton Thomas est accusé d'avoir pénétré samedi soir lors de la fête juive de Hanouka dans la maison d'un rabbin de Monsey, ville située à 50 km au nord de New York, avec une arme blanche, un grand couteau comme une machette ou un sabre, selon le témoignage dimanche dans la presse de Joseph Gluck, qui se trouvait dans la maison lors de l'agression. L'agresseur, qui a essayé de pénétrer dans une synagogue voisine, a pris la fuite après l'attaque avant d'être arrêté par la police. Il a plaidé non coupable et comparaîtra de nouveau le 3 janvier.
Et au Texas, les paroissiens d'une église proche de Fort Worth ont abattu dimanche matin un homme qui avait ouvert le feu pendant la messe, tuant un fidèle et en blessant grièvement un autre. Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué enquêter pour déterminer les motifs de l'attaque.
Kiev et les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont échangé dimanche environ 200 prisonniers, une opération contestée par certains qui marque néanmoins une désescalade avec Moscou dans ce conflit armé, le dernier encore actif en Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît toutefois que nombre d'Ukrainiens restent toujours emprisonnés en Russie et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou.
En Chine, condamnation à 3 ans de prison du chercheur He Jiangqiu, qui avait provoqué l'an dernier un scandale planétaire en annonçant être parvenu à mettre au monde les premiers bébés génétiquement modifiés. Cette sentence a été annoncée par l'agence Chine Nouvelle. Le chercheur avait dit que c'était pour rendre ses enfants résistants au virus du sida dont était infecté leur père. Le gouvernement chinois, accusé à l'époque de laxisme, avait ordonné la suspension des recherches et placé M. He sous enquête policière. Il a été condamné par un tribunal de Shenzhen, la métropole du sud du pays, où il avait effectué ses travaux pour, je cite, « avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction », a précisé l'agence de presse officielle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Niteko Nani Talani.
Au Bénin, le kilogramme de soja coûtera 175 francs CFA durant la saison 2019-2020. Les producteurs espèrent en profiter pour capitaliser sur la bonne dynamique enregistrée par la légumineuse depuis plusieurs années. L'agence Ecofine annonce que le gouvernement béninois entend produire au moins 200 000 tonnes de soja d'ici 2021 contre environ 1500 tonnes actuellement. La moitié de cette production devrait être exportée et l'autre devrait être transformée localement. L'agriculture fournit plus de 30% du PIB béninois et génère 75% des recettes d'exportation. Le corridor routier Lagos-Abidjan démarrera d'ici 2022 et les études de faisabilité seront achevées en 2020, selon Akinyumi Adesina, président de la Banque africaine de développement citée par Ecofine. Autoroute à 6 voies, la route s'étend sur 1028 km et reliera des grandes villes économiquement dynamiques de la CEDEAO comme Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé et Lagos. La route connectera aussi les ports maritimes d'Afrique de l'Ouest à tous les pays enclavés de la région, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le corridor Abidjan-Lagos sera financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On parle ce matin des compétitions africaines des clubs de football. D'abord, la Ligue des Champions.
Oui, la troisième journée de la phase de poule et le TP Mazembe, vainqueur de ces deux premiers matchs, a été accroché sur le terrain des Angolais du Primeiro do Agosto, un partout. Les Congolais comptent tout de même 7 points et gardent la première place du groupe A devant les Égyptiens de Zamalek qui ont concédé eux aussi le nul 1-1 chez les Zambiens de Sesco United. Et puis, dans le groupe D, premier point pour l'SV Club de Kinshasa après son nul 0-0 sur la pelouse de l'Espérant de Tunis. Les Congolais restent derniers dans ce groupe dominant par les doubles tenants du titre tunisien avec 7 points, juste devant le Raja de Casablanca qui a dominé la JS Kabylie 2-0.
Dans le groupe B, l'étoile du Sahel a été battue par Al Hilal.
Une surprise de taille, défaite 1-0 à domicile contre le club d'Ondoumane. Les Tunisiens qui voient donc les Soudanais revenir à leur hauteur au classement, ainsi que Al Ahly du Caire qui a battu 2-0 les Zimbabwéens de Platinum. Les trois équipes sont donc à 6 points. En revanche, dans le groupe C, deux équipes se détachent. Le Wydad de Casablanca qui a largement dominé les Angolais du Petro Atlético 4-1, mais aussi le Mamelodi Sundowns vainqueur sur la pelouse de l'USM Alger 1-0. Au classement, les Sud-Africains sont donc en tête avec 7 points devant les Marocains.
Troisième journée également des matchs de poule en Coupe de la CAF. Oroya domine Djoliba dans le groupe B.
Victorieux 1-0, le club guinéen prend seul la tête de ce groupe avec 7 points devant Djoliba. Opposé dans l'autre match du groupe, Vivest et El Nasr se sont quittés sur un 0-0 qui n'arrange personne puisque les deux clubs comptent 2 points chacun. Et puis, dans le groupe A, Pyramide FC a signé sa troisième victoire de rang après avoir battu 2-1 son compatriote égyptien Dal Masri. L'autre match du groupe n'a connu ni vainqueur ni vaincu entre FC Nouadhibou et les Nigériens d'Enugu Rangers. Le premier point historique pour les Mauritaniens à ce stade de la compétition.
Élisée, à l'instar des Mauritaniens de Nouadhibou, les Béninois d'Essaé aussi ont inscrit leur premier point dans cette compétition.
Oui, match nul à domicile contre les Zambiens de Zanaco 0-0. Une bonne performance pour le club universitaire qui méritait mieux au vu de sa prestation. Son entraîneur s'en contente. On écoute Richard Bio.
C'était un beau match. On avait en face un adversaire qui en voulait comme nous parce qu'il s'agissait pour nous de commencer par gagner le premier point. Donc on s'est engagé comme cela se devait. Mais on avait en face un adversaire qui en voulait aussi. Il faut reconnaître qu'on a péché dans la finition, certaines fois par inexpérience. Mais dans l'ensemble, je retiens du positif par rapport à notre dernière sortie.
Ce groupe est dominé par les Marocains de Berkane qui ont largement battu 3-0 les Congolais de Daring Club Motéba Pembe classés deuxième. Enfin, dans le groupe D, l'AC Paradou a réalisé une belle opération en s'imposant 1-0 à domicile contre Enimba. Les Algériens prennent la deuxième place derrière le leader marocain, le Hassania Agadi, auteur d'un match nul en Côte d'Ivoire face au FC San Pedro, score 1-0. Et puis, du basketball pour finir, et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Match très serré entre Oklahoma City et Toronto, 98-97. Denver a eu raison de Sacramento 120-115. Memphis a battu Charlotte 117-104. La Nouvelle-Orléans a eu le dessus sur Houston 127-112. Et les Los Angeles Lakers semblent se ressaisir après de récentes défaites surprenantes en battant Dallas 108-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail, le PCT, parti au pouvoir, tient depuis le 27 décembre son cinquième congrès. Ses assises devraient permettre d'élire un nouveau secrétaire du parti, mais il est à noter que les militants appellent le président Denis Sassou Nguesso à être encore candidat à l'élection de 2021. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Des centaines de délégués venus du Congo profond et de l'étranger discutent de l'avenir du parti présidentiel. D'abord, ils sont tous unanimes que Denis Sassou Nguesso doit remplir en 2021. Docteur Ngalisami Ibombo.
C'est l'homme qu'il faut garder pour 2021. Évitons les aventures. C'est lui qui a bâti la maison. Laissons-lui le temps de mettre la peinture, d'ajuster les tôles qui sointent et puis pendant ce temps, qu'il forme aussi les futurs successeurs.
Antoinette Kébi est la présidente de l'Organisation des femmes du PCT.
On ne pourra même pas discuter là-dessus. C'est notre candidat. À l'unanimité, nous l'avons désigné comme candidat du Parti congolais du travail.
Ensuite, cette discussion interne sur la gestion de l'État ouverte par les jeunes appelant à la lutte contre la corruption et disent clairement que le PCT ne devrait plus servir de refuge à tous les corrompus. Armel Sidobé, membre de la direction de la jeunesse du PCT.
À un niveau donné de responsabilité, il est question qu'on serve sa population, il est question qu'on serve effectivement pour que le pays se développe.
Le PCT fête en même temps les 50 ans de sa fondation par l'ancien président Marien Ngouabi. Beaucoup de commentaires sévères sur son règne au Congo. Antoinette Kébi répond.
Et la critique ne devrait même pas nous faire peur. La critique devrait nous emmener à aller de l'avant. Les critiques positives, nous les prenons, nous les intériorisons et faisons en sorte que nous puissions mettre en œuvre ce qui ne marche pas. Ce qui est critiqué, nous reformulons la façon de faire de notre parti.
Par ailleurs, Pascal Tsatsimabiala, le chef de l'opposition, profitant de ce congrès, a appelé à un profond changement au PCT.
40 ans au pouvoir, mais pour un résultat catastrophique. C'est ça aussi le bilan du PCT. Et j'espère qu'au moment où ils se réunissent, ils y pensent fortement pour laver le désaveu infligé par les Congolais. Toutes les consultations, vous savez, le PCT n'a jamais gagné.
Enfin, le congrès qui s'achève ce lundi débouchera également sur la désignation d'un nouveau secrétaire général du parti. Pierre Ngolo, élu en 2011, ne devait plus se représenter. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Niger, une manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité en guerre contre le terrorisme et d'exigence d'un partenariat sincère entre le pays et la France dans le cadre de cette lutte devrait se tenir ce week-end. Mais elle a été interdite par les autorités de la ville de Niamey. Le point avec notre correspondant dans la capitale nigérienne, Abdulrazak Idrissa.
C'est la troisième fois depuis le début de ce mois de décembre qu'une manifestation publique projetée par les organisations de la société civile pour protester contre la présence des forces étrangères sur le sol nigérien est interdite par les autorités de la ville de Niamey au motif de risque de troubles à l'ordre public. Munkela Halidou, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne.
Il n'y a pas de raison valable. L'interdiction était juste la volonté du patriarche. Il ne s'agit pas de troubles à l'ordre public. Il s'agit s'agisse juste de vouloir cautionner ce que le président Issoufou a dit, qu'ils ne vont plus tolérer que des manifestations puissent être, en tout cas, organisées sur le territoire.
Le chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou, a en effet récemment, dans un entretien accordé à des médias français, annoncé qu'il n'autoriserait plus de manifestations de ce genre qui visent, selon lui, à démoraliser les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme.
C'est pas la base populaire qui s'exprime dans la rue. Ceux qui s'expriment dans la rue sont très très minoritaires. Moi je vois pas de foule, en tout cas au Niger, en train de contester les alliances qui sont en place, qu'on veut mettre en place pour lutter contre cette menace, qui est une menace planétaire. Et les Nigériens, en tout cas dans leur immense majorité, savent que cette menace est planétaire. Les gens qui contestent la présence des alliés à nos côtés sont minoritaires. On les connaît. On connaît le rapport de force. Nous sommes en guerre et moi je n'accepterai pas que des actions de démoralisation des forces de défense et de sécurité se déroulent sur mon territoire, au Niger.
Pour les actions futures qu'elle envisage, les organisations de la société civile disent n'avoir plus l'intention d'obtempérer à des décisions d'interdiction. Moussa Kiangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen.
L'interdiction d'une manifestation pacifique dont l'objet est très clair constitue vraiment une entorse grave aux principes, aux valeurs de la démocratie. Et nous avons pris la ferme résolution. Pour ce qui concerne les jours à venir, nous aurons à faire une manifestation début janvier qui aura lieu un jour ouvrable. Si ceux qui ne veulent pas, on fera la prochaine manifestation un jour ouvrable. Et à la prochaine manifestation, nous ne considérerons aucun papier que qui que ce soit va nous décerner.
Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie doit être soumis aujourd'hui aux députés. Il prévoit un durcissement des condamnations qui pourront aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Ce projet de loi répond à un besoin urgent de freiner les violences faites aux femmes. Violence qui ne cesse de croître dans le pays, nous dit de Dakar notre correspondant Sédina Abagay.
Dans les transports en commun, dans les foyers et dans les espaces publics, les femmes subissent toutes sortes de violences. Généralement, elles gardent le silence pour éviter le regard de la société. Certaines se tournent quand même vers des structures spécialisées qui portent anonymement leur voix et leur combat. Na Maïmoune Djité, membre de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Tu sors, tu dis à un de tes parents, j'ai été tabassée par mon mari, il te dit, Daloul Ngamoun, vas-y, tu vas gérer ton ménage, etc. Alors qu'ils ne savent pas ce que toi tu endures dans cette vie de couple. Je pense que c'est ça qui pousse beaucoup de femmes à avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent. Et que la société également n'a pas donné la place qu'il faut à la femme.
C'est donc le modèle de la société sénégalaise qui explique en partie cette violence subie par les femmes, comme l'indique le professeur Djibi Diakhaté, sociologue.
En fait, nous sommes dans une société où on a mis essentiellement l'accent sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est une communauté dans laquelle les hommes ont plus de privilèges que les femmes. Si vous regardez bien, le patriarcat est essentiellement renforcé par l'acceptation d'un certain nombre de dispositions qui renvoient au culte. Nous avons par exemple la religion musulmane, la religion chrétienne et un certain nombre de traditions animistes et païennes qui mettent l'accent sur l'idée que l'homme doit prendre le devant par rapport à la femme. Maintenant, lorsque ces choses sont intériorisées, les gens ont tendance à développer des attitudes et des comportements qui sont de nature à montrer des fois de la façon la plus brutale qui soit l'autorité de l'homme sur la femme.
Les femmes sont ainsi victimes de beaucoup d'abus, comme le constate Na Maïmoune Djité de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Des fois même dans la circulation, dans les bus tata, etc., tu vois des femmes qui sont côtoyées par des hommes, qui font des attouchements, etc. On le vit tous les jours. En pleine journée, tu vois des hommes qui violent des femmes. Donc, c'est des choses, des pratiques qui continuent à exister dans notre société. Et je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter ces genres de pratiques.
Pour que ces violences cessent, il faut que les femmes puissent faire face, et cela passe nécessairement par une émancipation, d'après Djibi Diakhaté. Konaté, professeur de sociologie.
La femme a droit à des droits et ses droits doivent être respectés. Ses droits sont inaliénables, ils sont intangibles, on doit respecter le droit de la femme. Donc il faut un travail de sensibilisation à l'endroit des hommes, mais aussi un travail de déconstruction et de sensibilisation à l'endroit des femmes. Il faut voir que beaucoup de femmes ont tendance à accepter leur sort, à se dire qu'il en est ainsi et qu'on ne peut pas changer l'ordre des choses. Alors si on tombe dans cette sorte de fatalité, tout se passe comme si le sort est déjà jeté et qu'on ne peut absolument rien faire pour changer la tendance. Donc il y a un travail de déconstruction au niveau mental, amener certaines femmes à effectuer ce que l'on peut appeler une insurrection mentale.
Les associations, mouvements et structures spécialisées dans l'appui aux femmes vulnérables font souvent des actes pour dénoncer les abus basés sur le genre. Sur la même lancée, le gouvernement du Sénégal compte sur le durcissement des sanctions pour faire baisser les violences faites aux femmes. Le viol et la pédophilie, autrefois considérés comme des délits avec des peines de 3 ans d'emprisonnement, seront considérés comme des crimes avec de lourdes peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Au Bénin, les activistes des droits de l'homme en milieu sanitaire militent de plus en plus pour que l'accouchement humanisé entre dans les habitudes du personnel soignant. Les femmes enceintes ainsi que leurs proches se plaignent constamment de l'accueil dans les hôpitaux publics, du mauvais traitement qui serait, selon eux, les premiers facteurs à la base de la mortalité maternelle et infantile dans le pays. De Cotonou, reportage de notre correspondante Jeannette Fleur à Dandé.
Le taux de mortalité maternelle au Bénin est resté pratiquement le même entre 2006 et 2018. Il y avait 397 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 et 391 décès pour le même nombre de naissances vivantes en 2018, selon un rapport sur la démographie et la santé au Bénin. C'est que les conditions dans les hôpitaux n'ont pas vraiment évolué. Certaines femmes ayant déjà fait l'expérience dans les hôpitaux publics en part.
Les sages-femmes ne sont pas trop accueillantes. Elles sont un peu énervée, c'est pour crier sur nous. Et des fois, même on a peur de venir à l'hôpital.
La sage-femme qui garde pendant 24 heures est obligée de continuer tant qu'il n'y a pas une remplaçante. Elle est épuisée, elle est fatiguée.
L'accouchement par voix basse avec les cris des sages-femmes et tout, dégagez monsieur, c'est ça. Ce n'est pas de l'accouchement humanisé.
Violence verbale et sociale à l'encontre des femmes enceintes, éloignement de la famille, qu'on interdit d'accès à la salle d'accouchement, les cuisses de la femme écartées de force, rançon vente illicite de médicaments, des ordonnances exorbitantes. Ce sont des pratiques courantes contre lesquelles l'accouchement humanisé voudrait lutter par des sensibilisations, des formations, des émissions radio, des jeux de rôle. Annick Nonourou, sage-femme juriste, activiste des droits humains en milieu sanitaire, pense que pour la crédibilité du système sanitaire, il est important de promouvoir ce type d'accouchement et pour cause.
Il s'agit d'un accouchement fondé sur le respect des droits humains. Quand on parle de respect des droits humains, mais en salle de naissance, c'est le respect des droits et libertés individuelles de la parturiente, c'est-à-dire de la femme qui est en travail. La première liberté, c'est l'accès à la personne de son choix durant tout le travail d'accouchement et pendant même l'accouchement et après l'accouchement.
Ce premier point de l'accouchement humanisé semble être une équation difficile à résoudre dans un hôpital public où plusieurs femmes enceintes se retrouvent nues dans une même salle. Dans le privé, cela relève d'une forte négociation et d'une faveur accordée à un homme qui attend d'accueillir son premier enfant. Sinon, le principe est formellement interdit. Les sages-femmes montrées du doigt se défendent. Elles disent accomplir leur devoir en toute humanité dans le respect des vies qui leur sont confiées.
Quand ça tourne mal, automatiquement, la sage-femme qui a mal fait le travail. Même les gynécologues aussi disent que tout le monde, on juge la sage-femme qu'elle est mauvaise, mais quand ça va, il n'y a pas de problème.
Quand tu es sage-femme, tu dois donner la joie aux autres. Tu oublies ta famille, tu oublies tout le monde, le mari. Parce que c'est d'ailleurs qu'on a eu tellement de problèmes dans nos foyers. On n'arrive pas à bien s'occuper de nos maris. Et puis on est encore mal vu par la population. Et au finish, qu'est-ce qu'on ramasse comme bénéfice? C'est le mal de dos. Et combien on gagne comme salaire? Un salaire qui est misérable.
Accouchement humanisé ou pas, les problèmes resteront les mêmes si les femmes enceintes ne font pas un effort pour suivre religieusement les prescriptions médicales ou si l'État ne fait pas un effort dans l'équipement des hôpitaux publics, pense pour sa part Dr. Christiane Aguemont, gynécologue obstétricienne au CNHU de Cotonou.
Je ne pense pas que le problème soit lié au personnel soignant. Il faut que la population essaie de faire la part des choses. Quand la malade arrive, à l'hôpital. Vous savez que dans nos hôpitaux, on n'est pas suffisamment équipé. La plupart des décès que nous recevons, ce sont les malades qui viennent des centres périphériques qu'on doit maintenant référer dans des centres de niveau 2 ou de niveau 3.
Avant que l'accouchement humanisé ne soit vraiment une réalité au Bénin, il y a encore tant à améliorer. La supervision formative des pères, la transmission d'une sage-femme expérimentée à une jeune sage-femme, la vulgarisation et la sensibilisation des droits des patientes, la formation continue de toutes les sages-femmes en activité. De Cotonou, Zine Cloa Dandy pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.